Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, c'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris, donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison, le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. Nous sommes le 29 septembre et il est 1h45 quand je suis en train d'enregistrer cette intro. Parce que le sommeil, c'est pour les nazes. Alors, petit retour du podcast avec plusieurs épisodes, vous allez voir, qui vont s'enchaîner. Je voudrais déjà commencer par remercier tous les gens qui ont vraiment joué le jeu et qui ont mis un commentaire sur iTunes et qui ont mis 5 étoiles et tout ça. C'est vraiment ultra sympa. Lors du dernier épisode, j'avais fait un peu ma michto, j'avais dit, et j'avais promis d'envoyer un Blu-ray à la personne qui mentionnerait le fait de vouloir un Blu-ray dans le commentaire iTunes, et Simon V6 l'a fait. Et il a même demandé un Blu-ray Disney, parce que j'avais fait une longue diatribe contre Disney, et donc voilà, et je lui ai envoyé, et donc il est très content, parce que maintenant il a un Blu-ray de Iron Man 2. Ouais, parce que je l'ai eu quand même, Disney a racheté Marvel, etc., donc bon bref. Faites comme eux, je sais qu'il y a des centaines de personnes qui sont en train d'écouter ce podcast, et je n'ai que 20 notes, donc clairement c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas en train de le faire, donc merci. Les petits moments d'autopromo, www.areskisugar.com pour toutes les dates de stand-up que j'ai, et puis également pour les autres podcasts que je fais, voilà, si vous voulez écouter un peu de critiques ciné sur fin de séance, si vous voulez écouter des stand-uppers qui déconnent sur le meilleur podcast, ou également de la promo pour le podcast que je produis, le podcast de Rosa Burstein qui reçoit des mecs qu'elle veut ken, les mecs que je veux ken, c'est le titre du podcast, available partout sur Spotify, iTunes, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je recevais Mathieu Pradel, préparateur physique et mental d'athlètes de très haut niveau. Donc on est en train de parler de Barclays League, de Division 1, d'internationaux camerounais, ivoiriens, mais aussi coach sportif d'acteurs avant les tournages de films. Et c'est clairement un métier que je ne connais pas. Donc voilà, moi j'adore essayer d'apprendre un petit peu ce que je ne connais pas. Et j'adore Mathieu parce que, de son propre aveu, il est intarissable et c'est trop cool d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu tous les aspects de son métier. On n'est pas du tout rentré dans des détails techniques ou même l'aspect peut-être réseaux sociaux. Mais j'excuse pas du tout de le re-recevoir, tout simplement, pour parler des choses qu'on n'a même pas eu le temps d'aborder. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec Mathieu Pradel. Du gainage,
premier podcast que tu fais
sûrement, ouais.
T'as déjà été interviewé en fait ou...
Je réfléchis, oui, j'ai déjà été interviewé
Notamment dans le cadre de projets associatifs,
Ouais.
mais j'ai pas le souvenir d'avoir été interviewé pour parler de mon métier de
Ouais.
préparateur physique
C'est que du coup c'est comment c'est que du bouche à oreille en fait comment t'es recommandé de d'athlète en athlète en fait.
Oui,
Ouais.
quasiment, et du bouche à oreille et du souvent je travaille avec des réseaux en fait,
Ouais.
c'est-à-dire par exemple dans le foot je travaille principalement avec un agent
D'accord.
qui enfin disons que je travaille avec la majorité de ses joueurs et que je travaille beaucoup avec son réseau puisque c'est lui qui m'a mis le pied à
D'accord.
l'étrier. Et ensuite, comme tu dis, du bouche à oreille, mais vu que ce que je fais, je trouve, finalement, est assez lié au métier d'agent,
Ouais.
puisque ce que je fais, c'est de la préparation physique individualisée pour des joueurs de foot et des joueurs de basket, principalement. Des acteurs aussi, on pourra en parler. Mais du coup, c'est souvent l'agent qui a intérêt à constituer un petit staff comme
Ouais.
ça autour de ses
Pour
joueurs.
pouvoir utiliser la personne sur ses joueurs à lui, quoi.
Oui,
En...
voilà. Ben, et souvent, c'est là, disons que c'est l'agent qui, normalement, veille aux intérêts individuels du
Ouais.
joueur, à la fois d'un point de vue contractuel et financier. Et donc aujourd'hui, on va en discuter, mais être performant à haut niveau, c'est souvent aussi avoir une préparation un peu plus individualisée, des conseils de nutrition, du massage,
Mais du coup,
des
ça t'a fait
services
peut-être
d'ostéo.
connaître aussi d'autres personnes comme toi qui optimisaient les performances des joueurs ou ils vous sectorisent. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis agent et que je me dis, tiens, j'ai un préparateur physique, mental, j'ai peut-être un kiné, est-ce que je vous fais travailler ensemble un
Oui,
peu ou...
complètement.
Ouais.
J'ai l'impression justement de pas du tout jamais rencontrer des gens qui font la même chose que moi.
Oui.
Par contre, des ostéos, des
Ouais.
kinés, des masseurs ou dans le côté nutrition, des nutritionnistes ou même des chefs, puisque les sportifs, certains sportifs avec qui je travaille ont des chefs. Ça, oui, on les rencontre parce que plus on communique, mieux ça
Oui,
fonctionne,
c'est
notamment avec les ostéos et les
ouais.
kinés. Moi, je suis directement lié et aussi avec les médecins. Finalement, même si enfin, on est plus intimement lié avec l'ostéopathe ou le kiné, puisque moi, en tant que préparateur physique, a priori, même en réathlétisation, je travaille sur un corps sain ou un
Ouais.
tissu sain. Oui, un petit peu, les médecins.
Du coup, en fait, parce que toi, t'as fait quoi comme étude? Le gars trop scolaire,
Non,
j'aimerais
pas
bien
du tout,
savoir
c'est
c'est
intéressant.
quoi.
Moi, j'ai fait STAPS.
Ouais.
Voilà, moi,
Donc c'est le truc classique
j'ai une maîtrise en
normalement
STAPS, voilà, ou
pour...
C'est le classique avec d'autres diplômes. Après, moi, j'ai un brevet d'état basket, donc c'est pas forcément celui qui est le plus lié à la préparation physique. Bien que je trouve que les basketteurs ont fait de bons préparateurs physiques parce que,
Il y a un peu tout qui est utilisé,
ouais,
c'est
voilà, et c'est un sport assez explosif.
ça. Ouais.
C'est un sport qui demande pas mal de qualité, de coordination,
Ouais. Mais
d'explosivité.
aussi qui peut avoir pas mal de problèmes en articulation, non? Ou des choses comme ça.
Oui,
Tu
bien
vois,
sûr. C'est.
versus peut-être, tu vois, par exemple, si tu étais spécialisé en natation, comme j'ai l'impression qu'ils ont moins de problèmes,
Oui, tout à fait.
du
T'as
coup, il y a moins de...
raison. Justement, je trouve maintenant que je suis à un âge avancé que le basket est un sport assez traumatisant, quoi.
Ouais.
C'est un sport où il y a beaucoup de sauts, beaucoup de sprints, beaucoup d'efforts à haute intensité. Je trouve que c'est difficile d'aller faire une petite partie de basket à la cool.
Ouais,
Tu vois, souvent,
il y a
il
toujours
faut.
deux, trois petits coups,
Mais non,
peut-être.
et puis ouais, ça demande beaucoup de courses. Tu vois, même au foot, je trouve que tu peux plus gérer tes efforts. Tu peux faire jouer 2 heures au foot et décider de pas trop sprinter, par
Oui,
exemple, en
tu
étant
peux faire
bien placé.
défenseur caché
Ouais, mais non, mais même
qui
sans se cacher,
relaxe.
ouais. Tu vois, au milieu de terrain, tu peux faire des choix,
Oui.
justement, d'essayer d'aller vers les espaces vides. Basket, bon, à un moment, t'as pas trop le choix, quoi.
Ouais, c'est
Si tu peux,
aller-retour ou
ouais,
rien.
voilà, il y a beaucoup d'allers-retours. Et c'est pareil, dans la verticalité, bon, à moins que tu prennes plaisir à te faire contrer 10 fois dans le match, mais
Oui, c'est
il y a
clair.
un moment, il faut quand même un minimum, tu vois, sauter, sprinter, c'est un peu obligatoire.
De STAPS, pour moi, ça va de prof de sport, en
Ouais.
gros. Ah, donc, bah, enfin, je sais pas, j'imagine que le plus, oui, c'est le, enfin, j'allais dire le plus pointu des trucs, c'est effectivement
plus ou moins ce que tu fais, non, avec
Stabs, quoi. Même ça va même à plus que ça, puisque tu as les gens qui font des activités physiques adaptées, qui travaillent avec les publics seniors, ouais, les publics handicapés, des gens qui font du management du sport, donc après qui se destinent plutôt à des métiers de gestion ou de travailler en tant que dirigeant dans des structures ou donc il y a vraiment plein de trucs, quoi. Il y a vraiment plein de trucs.
Moi, ma question, c'est parce que souvent je le dis, en tant que dentiste, j'ai fini mes études et en vrai, je crois que j'ai quasiment appris vraiment mon métier qu'après avoir eu mon doctorat, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'a enseigné, bah, soit c'était des techniques obsolètes, tu vois, soit en fait c'était des trucs scientifiquement juste faux, quoi, et que ça appartenait à des dogmes. Et du coup, je me demande quel est le pourcentage de trucs, en fait, que t'as appris au final après avoir fait ton diplôme, parce que toi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans pile le domaine où tous les ans, il y a quatre théories différentes sur comment manger, comment entraîner, comment faire du sport.
Oui, moi, c'est ce que tu dis là, je m'y reconnais complètement. D'autant plus que j'ai l'impression d'être un peu un profil out of the box, comme disent les Américains.
Ouais.
Mais oui, effectivement, j'ai l'impression d'avoir quasiment tout appris moi aussi après, et d'apprendre tout le temps, parce que, comme tu dis, je crois que finalement le fait de s'interroger beaucoup, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de devenir bon dans ce que je fais. En plus, dans mon domaine, j'essaye souvent de chercher des expressions, mais l'idée de bricoleur ingénieux, de bricoleur, d'alchimiste, ouais, ou, enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça qui correspondent bien.
Le côté essai-erreur, tâtonnement. Ouais,
exactement. Ben oui, parce que, en fait, c'est très bizarre. À la fois, il y a des choses très scientifiques, on va dire, qu'il faut quand même respecter, et qui viennent de la physiologie, de l'anatomie, de la biomécanique, qui sont quand même des sciences...
dures, quoi.
Ouais, entre guillemets, ouais. Parce qu'il y a certains processus physiologiques ou qui sont implacables, en fait. Mm. Mais en même temps, tout le monde est différent. Et donc, finalement, il y a aussi des différences inter-individuelles immenses, en fait, quoi. Aussi bien d'un point de vue physiologique, génétique, physique, dans l'état de forme à l'instant T.
Ouais.
Et en plus de ça, moi, ça a été plus tard, mais j'ai complètement, quasiment tout révisé dans tes
protocoles.
Ouais, voilà. Quand, dans la vie, je me suis intéressé presque un petit peu en dehors de mon travail, finalement, à la question spirituelle où finalement, j'ai essayé aussi de plus lier ça à la question mentale.
Ouais.
Et donc là, effectivement...
qu'aux actions pures à faire, quoi.
Oui, et puis c'est quand même... On parlait de kiné, médecin, préparateur physique, un petit peu de toutes ces choses qui peuvent être le paradigme, en tout cas, de la performance sportive. Et de plus en plus, quand même, je me rends compte que...
Il y a besoin de psy, quoi.
Ben, et dans nos sociétés, en plus, c'est très séparé, en fait. C'est-à-dire...
Oui. C'est le corps et l'esprit.
Voilà. Je pense que, par exemple, en Asie, il y a déjà plus une vision
globale,
voilà, avec un lien entre le corps et l'esprit. Et où nous, finalement, moi, dans ma culture, on va dire... de la laïque occidentale, tu vois, j'avais jamais vraiment lié, oui, de manière très fortement.
Surtout pire, on évolue dans une culture où il y a encore, tu sais, clairement le tabou psy, tu vois, c'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, je suis allé voir mon dermato, tout le monde s'en fout, en fait, et
oui,
que tu dis à quelqu'un, je suis allé voir un psy, tout le monde a ce petit arrêt, tu vois.
Exactement.
En se disant, qu'est-ce qui se passe.
Et d'ailleurs, c'est une erreur, parce que c'est vrai qu'on lie aussi beaucoup le mental à la question des émotions, mais en fait, en sport... Il y a aussi tout un paradigme du mental qui n'a pas de rapport avec le bien-être ou les émotions. La prise de décision, c'est lié au mental. La prise d'information, c'est lié au mental. Et il y a de la préparation physique perceptive, c'est-à-dire ça, c'est un truc que on fait très peu, et il y a très peu de structures qui s'occupent de ça. Moi, j'y touche un tout petit peu, mais j'essaye de mettre un peu du contenu comme ça dans ma cuisine, puisqu'on parlait de... Mais voilà, vision centrale, la vision périphérique sur un terrain de foot, sur un terrain de basket, ça s'entraîne en fait, ça se travaille.
Et oui, c'est vrai qu'en fait on n'y pense pas, mais ça fait aussi partie du truc de te dire, ok, j'aperçois un mouvement d'une jambe de quelqu'un qui fait que, si j'ai la demi-seconde de plus, ou plutôt de moins, à aller l'intercepter, j'ai gagné quoi.
On finit avec le ballon dans la main, exactement, ou au pied si on parle de foot. Donc il y a tout un pan justement très très mental et aussi dans mes lectures. Par exemple, je m'étais intéressé à certaines lectures autour des samouraïs, par exemple, et de cette culture de l'esprit vide, par exemple, au sens noble du terme, puisque l'esprit vide dans l'idée d'avoir le geste juste. Et ça, j'y crois de plus en plus en sport, qu'à l'entraînement, on automatise des gestes, on s'entraîne pour être capable, le jour J, de les reproduire et que, notamment avoir l'esprit vide, c'est souvent une bonne solution.
Ce que les Ricains appellent être in the zone, quoi.
Exactement.
Et je sais pas si tu connais ça, il y a un truc, je sais qu'il y a une société qui s'appelle Neurocore à Boston, mais je crois que ça existe aussi en France, parce que j'avais regardé même autour de Toulouse à Colomiers d'ailleurs, je crois.
Je suis toulousain en plus, tu m'interpelles avec moi.
Et un truc, ça s'appelle le neurofeedback. Et en fait, c'est un truc assez ouf où justement, on essaye de t'entraîner à être in the zone par des trucs très très cons. Genre en fait, on met des électrodes sur ton cerveau et on sait à peu près que être in the zone, c'est avoir des ondes alpha à peu près comme ça. Et en fait, on lit tes électrodes à une télé. Et si tu sors de ce pattern-là, la télé s'éteint. Du coup, tu vas vouloir garder la télé allumée, donc tu vas dompter un petit peu ton cerveau à se mettre dans ce mode-là. C'est-à-dire que tu vas dire, non, ok, j'arrête de penser à autre chose, j'arrête de penser à, oui, il y a le chèque qu'il faut que j'envoie, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, comme n'importe quel muscle, plus tu as l'habitude de faire ça, plus tu peux retrouver le truc. Et j'ai appris qu'il y avait pas mal de golfeurs, notamment, qui faisaient ça, parce que tu sais, le côté de, en fait, quand t'arrives, t'as littéralement juste, tu vois, une seconde. En fait, t'as 18 secondes de travail, en vrai, dans toute ta journée de ton US Open.
Oui, c'est ça.
Et il faut que tu switches directement sur le truc.
C'est intéressant, je connaissais pas particulièrement, et en même temps, il n'y a rien qui me surprend dans ce que tu dis, parce que, effectivement, toutes tes vibrations, ou toutes tes fréquences, on parlait de spiritualité.
Ouais.
Et du coup, je regarderai ce,
ouais, bah,
ce truc là que tu me... Parce que, effectivement, t'as la capacité à se mettre dans un état. Alors, souvent, il y a cette idée d'instant présent, comme tu disais, de pas trop se projeter ni dans le futur, parce que c'est là qu'on crée des peurs.
L'anxiété.
Et ni dans le passé, puisque le passé nous donne beaucoup d'informations. À froid, justement, pour se dire, tiens, ça, je l'ai mal fait. Mais en général, il vaut mieux pas trop penser à l'action d'avant, quoi.
Mais en gros, quand, si tu veux, après, c'est comme tout. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu peux revoir le passé, commencer à te dire, là, l'erreur que j'ai faite et reanalyser le truc.
C'est ça.
Mais sur le moment, et ça, c'est marrant parce que, aussi, en stand-up, il faut être là, en fait.
Oui.
Il faut vraiment, parce que dès que tu commences à te voir toi-même, à la troisième personne, en train de dire, là, je suis en train de faire comme j'avais fait la dernière fois, ou alors, je suis en train de me dire, là, je vais dire ça, mais comme je vois que le mec est là-bas, et tu sors, tu vas pas être aussi marrant, quoi. Parce qu'en fait, t'es pas en train de vivre tous les mots que t'es en train de dire, tu vois.
Ouais.
Et c'est marrant, parce que, après, tu sais, c'est tous les trucs new age de tout le monde, genre, vive le moment présent et tout, mais en fait, en vrai, ils ont raison. C'est ça qui est gentil.
Oui, mais d'ailleurs, c'est pas si new age, parce que je pense que beaucoup de, finalement, de religions, ou je cherchais un autre mot pour pas être que dans le paradigme des religions, mais beaucoup de culture de l'esprit ou de la sagesse ont été dans ce sens-là, quoi. Ouais. Enfin, y a, finalement,
et c'est... Et du coup, qu'est-ce que tu as appris justement des samouraïs et que tu peux, que tu as pu extrapoler sur ton travail avec le...
Par exemple, alors, il y a cette idée, moi, de l'esprit vide que j'aime bien, puisque notamment, justement... ce qu'on est en train de dire, il y a beaucoup l'idée que nos pensées peuvent nous parasiter, et donc ça, je pense que ça concerne énormément le sportif, et ça m'a aussi renforcé dans une conviction, dans une croyance que je n'avais pas forcément, c'est de croire de plus en plus à, et d'utiliser de plus en plus le phénomène de visualisation. Et que effectivement, se visualiser vainqueur pour un sportif a quand même ou visualiser au moment où avant que le ballon parte du pied ou avant une frappe ou avant un tir au basket, se conditionner à systématiquement visualiser son action comme réussie, positive. Le mec qui tire au basket et qui se dit à chaque fois ça va être dedans, eh ben, je pense que c'est efficace en fait.
C'est donc... marrant parce que tu vois tous les trucs dont on parle où on va à l'extérieur des dogmes très classiques, très justes, bah écoute, fais juste ta muscu et tout ça. Comme toi, tu bosses avec des athlètes qui sont à la recherche de la demi-seconde que je gagne, ça va tout changer. Le kilomètre de plus, le truc comme ça va tout changer. Au final, t'en reviens au truc le plus scientifique du monde, c'est-à-dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas,
quoi. Mais tout à fait, tout à fait. Et ça rejoint l'aller-retour de science dure. Et c'est vrai que, alors parfois, ça fait du bien de se replonger dans un bouquin et de se rappeler comment ça marche. Mais des fois... aussi en étant un peu dans une analyse du réel, quoi, c'est-à-dire se dire bah, tiens, le mec, quand je lui fais ça, il se sent bien ou ça réussit, sans forcément aller chercher une justification scientifique. C'est vrai que...
genre, c'est pas grave, ça vient... Non, mais tu sais, je crois que le paracétamol, je crois qu'on a commencé à savoir comment ça a marché vraiment que ces 10 dernières années. Donc, si tu veux, en gros, il y a plein de trucs où on accepte parfois que quelque chose fonctionne sans forcément avoir de justification. Mais parfois, si tu tombes sur... et ouais, c'est pas pour cracher sur mes profs, mais c'est pareil, tu tombes sur des gens qui sont tellement surpétris de leur certitude qu'ils ont oublié que la base même du truc, c'était non, juste faire des expériences, en fait. C'est juste qu'on a fait 5000 fois sur quelqu'un. Et
d'ailleurs, je sais pas, toi, dans tes études en dentaire et pas mal de bases de médecine, fait au moins une première année ou même plus, de ce que j'ai cru comprendre, moi, de mes petites lectures de Stapsien, mais beaucoup de placebo marche, en fait, la plupart du temps.
Absolument. Tout médicament qui fonctionne, en fait, a une bonne partie placebo.
C'est ça. Et donc là, ça rejoint un petit peu cette discussion qu'on avait sur le mental et sur la croyance, en fait. La croyance dans la réussite d'une action, d'une entreprise. Et bon, alors du coup, c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans mon métier aussi. C'est sûr que si t'arrives et que, tu vois, un sportif qui se dit tous les matins que ça va jamais marcher,
ouais, je suis merde, ça va pas fonctionner, je suis pas le meilleur. Ça aussi, c'est difficile à vendre comme concept, parce que tu sais, très vite les gens ils vont dans des extrêmes, très vite les gens ils sont en mode ouais j'ai qu'à penser que j'ai pas le cancer et je l'aurais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais tu dis non, mais en fait, que vous vouliez ou non, c'est un truc qui existe et qui fonctionne, et donc on doit au moins compter là-dessus si on veut atteindre un objectif, quoi.
Exactement. Et surtout, franchement, entre les quatre lignes d'un terrain, je pense que ça marche souvent. Parce que, je sais pas, dans beaucoup de sports, quand n'importe quel athlète de n'importe quel sport arrive avec une espèce de conviction sans faille que ça va marcher, qu'il va rien lâcher et qu'effectivement il lâche rien, ben souvent ça marche. Tu vois, dans une équipe par exemple, ce qui est très rare, mais une équipe qui ne se désunit jamais du début à la fin d'un match, elle est rarement vaincue en fait. Parce que justement, ce qui se passe souvent, c'est que il y a un doute qui s'installe individuellement et collectivement, et que en fait on a des temps faibles, et que c'est dans ces temps faibles en fait qu'on prend des points ou qu'on n'en marque pas. Mais je veux dire, imaginez que une équipe ou qu'un sportif soit de la première seconde à la dernière seconde d'une compétition complètement dans l'idée que ça va marcher, je vais gagner. C'est déjà un grand pas, déjà un bon pas vers la victoire. En tout cas, ce sera un adversaire difficile à battre, en fait.
Tout à fait, ouais.
Même quand on est meilleur, quoi.
Ouais. Encore une fois, on accepte de prendre le côté psychologique que quand, bah, au final, il y a de la thune à la clé. Parce que, en gros, c'est tout un système où l'équipe, il faut qu'elle ait des résultats. Alors que, typiquement, tu transposes ça dans une entreprise classique. Les gens, ils acceptent toujours pas d'intégrer le côté psychologique de leurs employés, quelque part.
Mais alors, moi, dans mon domaine, c'est vrai aussi, parce que le fait d'avoir des staffs individuels, le fait qu'un sportif puisse avoir un préparateur physique, un nutritionniste et un ostéo-perso, c'est aussi parce qu'on parle du sport business, c'est-à-dire des sports où il y a beaucoup d'argent, comme le foot, le basket. Là, justement, il y a eu un virage, c'est-à-dire que Enfin, c'est mon analyse, mais là où du coup il y a eu beaucoup d'argent, enfin dans les sports où en fait les droits télé sont arrivés, et où il y a eu qui engagent des grosses sommes d'argent qui sont devenues des business, le financier a besoin de données tangibles en fait. Les données tangibles, c'est les qualités athlétiques d'un joueur, les statistiques d'un joueur. Commencer à analyser les mecs sur leur mental, enfin ouais. Si tu veux ça va trop en profondeur. Et d'ailleurs je pense que ces structures-là n'ont pas intérêt, puisque si je schématisais, eux, ils ont intérêt à faire plutôt de la sélection naturelle, en fait. C'est-à-dire, ils n'ont pas forcément besoin d'être dans une logique de développement, puisque eux, de la même manière qu'on, tu vois, on se disait, bon, ben, tant que ça marche, c'est bon.
Ouais.
Si tu prends, par exemple, un club de foot de haut niveau, t'as tous les gamins de France qui veulent jouer là. Enfin, où, tu ouais. vois, tu prends la première division d'un sport, t'as la planète entière qui veut y arriver en fait, où le oui, donc tout le pool de jeunes qui veulent devenir basketteurs, footballeurs, veulent tous arriver dans des structures de haut niveau. Donc quand tu es une structure de haut niveau, tu n'as pas, t'as pas forcément intérêt, enfin
oui, t'as le choix, autant prendre juste les meilleurs,
et voilà, autant créer les conditions ouais. de la sélection naturelle et voir qui va émerger de ça ouais. et plutôt être dans un, là évidemment je critique un peu les structures puisque dont moi je fais pas partie, puisque moi justement je travaille en complémentarité avec ouais. leur travail, mais il me semble que un club de foot ou de basket de haut niveau, il fait plutôt de l'évaluation, c'est-à-dire il a besoin et un maintien des qualités physiques.
Tu veux dire que c'est pas en fait le secteur quelque part qui est aussi, j'allais dire inclusif dans la pensée des trucs, mais c'est que parce qu'en fait t'es choisi par un athlète de manière quasi personnelle quoi.
Oui. Ouais. Et puis surtout aujourd'hui ce qu'on demande à un sportif de haut niveau, c'est si tu veux, le PSG, ils achètent des joueurs comme des produits finis et ils demandent à ces joueurs-là d'amener ce pour quoi on les a ouais. recrutés, en fait. On ne te demande pas forcément, quand tu signes au PSG, de progresser, tu vois. C'est-à-dire, donc le PSG ne va pas forcément mettre en place... Enfin, je prends le PSG, mais vraiment, j'aurais pu dire n'importe quelle structure, ne va pas forcément mettre en place... une logique de développement de ouais. leurs joueurs. Contrairement à l'INSEP, par exemple, ou à un centre de formation, au centre de formation du PSG, c'est l'inverse.
Ouais.
Puisque du coup, là, je vais le dire positivement pour eux, ils veulent faire rentrer des jeunes de 14 ou 15 ans et les faire ressortir ouais. Beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient à 17 ou 18 ans. Et donc, moi, avec les sportifs pro, j'essaye de trouver des leviers d'optimisation de performance en poussant l'individuel, en fait.
Ouais. Mais on en parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu bosses avec quelqu'un, bon, j'imagine que toi, déjà, tu t'arrives, tu t'analyses, en fait, t'analyses la personne et ce qu'elle fait déjà. Tu dois peut-être changer son habitude de physique ou des choses comme ça.
C'est ça.
Mais jusqu'où tu vas pour les motiver ou... Tu disais que tu n'étais pas le genre de sergent instructeur, toi. Toi, tu n'étais oui. pas le mec qui, à la Riken, no pain, no gain, tu te lèves à 5h du mat avec des poids sur le...
Alors, si, se lever à 5h du mat, ça m'arrive parce qu'il y a des sportifs qui se lèvent très tôt. Mais effectivement, il me semble que je n'incarne pas ce truc du no pain, no gain. Je fais un peu des raccourcis hein, dans cet ouais. entretien, mais ce n'est pas grave.
Et on ne connaît tellement pas, au final, la vraie population ouais. des coachs sportifs. On sait pas, on n'a pas l'idée que ça peut être d'autres techniques, en fait.
Mais peut-être. Peut-être que c'est ça un coach sportif, mais moi je suis sur un truc particulier, c'est que les joueurs avec qui je travaille donc sont des joueurs de foot ou de basket qui ont déjà un rythme intensif, qui mettent leur corps et leur mental à rude épreuve, puisque contrairement à ce qu'on pense, souvent le sport de haut niveau n'est pas si épanouissant ou vertueux pour la santé du corps et de l'esprit. Souvent,
on
tire sur la corde et c'est des milieux ultra concurrentiels. Et donc, en fait, le sportif de haut niveau, c'est quand même aussi un sportif qui fait souffrir son corps. C'est souvent aussi un sportif qui s'entraîne avec une logique... et là encore une fois, c'est pas du tout pour critiquer les clubs, c'est tout à fait normal, mais avec une logique à court terme. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau, il prépare le prochain match, en gros, avec son équipe. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de décaler un petit peu tout ça, les objectifs et les enjeux, et d'être complémentaire, parce qu'il est hors de question ni de perturber le sportif dans son quotidien avec son employeur, et ni de le mettre en porte-à-faux avec son employeur. Donc au contraire, c'est de lui apporter quelque chose. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver des leviers de travail individuels et qui sont souvent en regardant les choses un peu plus sur le moyen long terme.
Ouais, sur la carrière générale.
Par exemple, voilà. Donc, je sais pas, un exemple typique, c'est souvent un sportif va avoir des dissymétries entre la droite et la gauche, entre les ischios et les quadris, ou dans les chaînes musculaires, des faiblesses. Et le préparateur physique de son club, il peut pas forcément, pour chaque mec, oui, mettre en place un programme précis. Donc voilà, moi je vais essayer de justement de trouver toutes ces petites zones qui ne sont pas travaillées avec le club et sur lesquelles on peut s'améliorer. Et donc il y a de la prévention aussi. Les footballeurs ont souvent, je trouve, manque de renforcement au niveau des ischios, par exemple. Alors bon, ben voilà, moi des fois c'est ça mon métier, c'est, tu vois, le petit exercice que le kiné te demande de faire juste quand t'es blessé, et ben moi je te demande de le faire un peu toutes les semaines. Ouais. Voilà. Et quand je te disais le pourquoi un petit peu prendre le contre-pied du no pain no gain, c'est que justement souvent je pense que le sportif de haut niveau ne prend plus plaisir en s'entraînant, ou c'est parfois difficile en fait de garder cette fraîcheur, de se dire c'est génial, tiens, c'est cool, je vais à l'entraînement, ouais, aujourd'hui. Souvent, entraînements par jour, voilà, ça devient une routine qui est assez éprouvante mentalement et physiquement. Et donc moi justement, il faut que ma séance, ce soit un peu un bol d'air de ce point de vue-là, c'est-à-dire puisque moi aussi des fois je dois les pousser, mais j'essaye de
voilà d'être le truc un peu plus ludique peut-être.
Ça peut être le ludique, ça peut être aussi faire comprendre que ça va être que ça va avoir des bienfaits, que ça va justement faciliter les choses. Que moi j'essaye souvent de faire sentir à un sportif que j'amène un outil pertinent et efficient, quoi. C'est-à-dire que si on travaille une demi-heure, une heure, on ne travaille pas pour rien, que c'est pensé pour ta problématique individuelle, parce que voilà, comme je t'avais dit, tu vois, tu as le membre droit qui a besoin d'être renforcé par rapport au membre gauche, et donc on travaille là-dessus, et tu vas te sentir mieux, tu vas limiter tes risques de blessure, voire des fois faire partir des petites douleurs. Parfois, par l'activité, on peut, en travaillant vraiment sur des petites choses, rendre la vie du sportif plus facile.
Plus facile, ouais. Ouais. T'expliques la finalité de chaque petit exercice. Je pense que ça va un peu dans le sens de la visualisation, non, aussi,
oui, parce que... ça aide pour la visualisation, et parce que je pense que, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément un choix réfléchi d'un point de vue professionnel, c'est aussi faire avec ce qu'on est personnellement. Et moi, je pense que j'ai ce côté un peu pédagogue, en tout cas, je m'épanouis plus dans cette manière d'amener mes consignes, tu vois, que quelqu'un qui... Et encore une fois, hein, c'est pas... Je pense qu'il y a besoin aussi d'autres types de coach, peut-être pour d'autres types de joueurs, qui ont besoin d'être là, de te sortir du pieu, de te dire maintenant, il faut bosser, tu peux faire encore, tu peux... Enfin, t'as des mecs qui ont besoin d'être poussés. Je te dis pas que j'utilise jamais ce genre de... Ça m'arrive moi aussi de mettre un coup de gueulante ou des fois d'être un peu sur le registre du « Allez, on y va, aujourd'hui on se fait mal, ça va payer ». Évidemment, mais c'est vrai que...
La dominante, c'est pas ça, quoi.
Oui, et puis en plus, si tu veux, les sportifs... déjà, je pense que les sportifs sont des gens dont on a tendance à les sous-estimer d'un point de vue intellectuel. Et en fait, ils ont vu passer beaucoup d'entraîneurs, quoi, tu vois. Ils savent très bien. Tu peux vite passer pour un guignol aussi auprès d'un sportif de haut niveau.
Tu connais les mécaniques des trucs.
Mais ouais. De toute façon, t'as même pas besoin. Je sais pas si t'as déjà fait du sport, mais t'as pas besoin d'être un grand sportif pour des fois avoir un nouvel entraîneur à l'entraînement et te dire putain, mais ce mec, c'est une brêle quoi, tu vois. Parce que au bout de trois phrases, tu comprends. Donc. Il y a aussi beaucoup d'humilité, tu vois, dans mon travail. En tout cas, j'essaye vraiment de faire le truc le plus sincèrement et le plus le mieux possible. Et je pense qu'il faut justement, il faut aussi savoir quand même, tu vois, avoir un minimum d'humilité, parce que ben, je te dis, ces mecs-là, ils ont aussi vu beaucoup d'entraîneurs, et donc je pense qu'on peut vite passer pour un guignol, ouais. Tu vois, quand pour pouvoir gueuler, faut d'abord quand même être bien sûr de ce qu'on est en train de dire, ouais. Et que tu vois, il faut, enfin, moi, c'est ma vision du truc, quoi.
Mais c'est marrant parce que je pense que tout nourrit tout, parce que bah, à partir du moment où tu arrives et que tu te rends compte que bah, justement tout peut changer, ce que tu conseillais hier, c'est pas forcément ouais, ce que tu vas conseiller.
Exactement.
Du coup, toi-même, effectivement, tu vas plus rester dans l'humilité, pas forcément dire, etc.
Exactement.
Et donc, tu vas le transmettre aussi. Est-ce que tu crois que le côté pédagogue aussi, ça vient de. Parce que tu bosses, tu sais, en associatif.
Oui.
Tu vois, c'est... Que si ouais. Peut-être si tu bossais. Enfin, je sais pas, moi j'ai.
Bien sûr. Non, mais ça vient même plus loin que ça. Mais après, je veux revenir sur ce qu'on disait avant. Mais en gros, oui, je suis fils de prof et en STAPS aussi, je me suis pas mal intéressé à la didactique, à la pédagogie, à cette idée que, en fait. On peut tous comprendre qu'à tel moment il faut telle consigne, mais la manière dont on l'amène, ouais. c'est une science en soi, en fait. La manière dont tu apportes le message. Et donc j'ai toujours essayé de me nourrir un peu aussi de ça dans l'entraînement sportif et de, tu vois, de garder un petit peu cet intérêt pour la manière de transmettre le message, pour la pédagogie.
Pour la pédagogie, ouais, c'est voilà. Marrant, mais tu vois, ça, on ne nous a jamais appris de pédagogie réelle. Alors que, à mes patients, il y a 1000 façons de dire quelque chose.
Exactement.
Et 1000 façons, du coup, que ce soit suivi ou pas.
Exactement.
Et je sais pas, c'est balayé, tu sais, le côté de... Non, en fait, oui. Parce que la forme que tu donnes au truc, ça va être important.
Carrément. Et moi, par exemple, je le vois dans mes... Si, par exemple, j'envoie une séance à un collègue, tu vois,
ouais.
Ou à un collaborateur, donc, par exemple, au préparateur physique du club d'un joueur avec qui je travaille, mm-hmm. Puisque ça arrive qu'on soit en très, très bons termes et qu'on soit dans une transparence totale.
Ouais, partenaire. Ouais.
Voilà, partenaire. La même séance, en fait... Si je l'envoie au préparateur, si j'envoie la séance que j'envoie au préparateur physique, au joueur, le joueur, il va rien comprendre à ce que je lui écris.
Ouais.
Et si j'envoie la préparateur, la séance, enfin, les mots que j'enverrai par mail au joueur, parce que je suis pas là et que je lui demande de la faire, si je l'envoie au préparateur physique du club, il va me prendre pour un guignol, quoi.
Ouais, ouais. T'es obligé d'envoyer les deux.
Mais voilà. Dans un cas, tu vas dire au mec, tu vois, va doucement quand tu descends, et dans l'autre cas, tu vas dire dans la phase excentrique, on va lui demander 5 secondes, tu vois. Bon,
ouais.
Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, il y a des trucs,
ouais.
Tu vois, que tu vas pas du tout dire pareil si tu parles à un professionnel,
ouais.
Ou à un...
Et en plus, tu dois les avoir les deux dans ton équipe, parce que tu vois, tu peux pas envoyer un message qu'à l'un et l'autre qui comprend pas ce qu'il dit.
Ouais, à la limite, c'est plus grave de passer pour un con auprès d'un collègue, parce que bon, tu vois, c'est pas, tu vois, il va se dire. Que de par contre que puisque finalement l'athlète c'est quand même la finalité c'est que c'est lui que tu veux mettre en action donc il faut qu'il parce que le collègue il va comprendre ce que tu lui dis mais il va juste se dire mais c'est qui ce mec tu vois comment il m'écrit ça mais je voulais revenir sur un truc parce que c'est hyper intéressant j'ai suivi un joueur pendant toute sa carrière un joueur de foot qui a été international qui a joué en première division pendant plus de 10 ans. Et bon, là, il est sur la fin. Et en fait, on a une super relation, tous les deux. Donc, on travaille ensemble les étés. Par moments, on a préparé ensemble des CAN ou des Coupes du Monde, puisque c'était un joueur qui était en sélection ivoirienne. Et en fait, des fois, notamment, j'ai ce souvenir dans certaines routines d'avant-match ou d'échauffement, j'arrivais tout content. En lui présentant un peu une avancée, tu vois, parce qu'il y a des publications, enfin, où il y avait un peu des nouvelles méthodes qui étaient validées,
ouais.
En disant, bon, ben ça marche mieux,
okay.
Tu vois. Et donc, des fois, il le faisait un peu pour me faire plaisir. Et en fait, finalement, il revenait me voir après pour me dire, tu sais, en fait, je suis sûr, en fait, que tu as raison, si tu me dis que ça marche mieux. Mais en fait, moi, je suis arrivé là en m'échauffant de telle manière.
Ouais.
Et en fait, de briser ma routine d'avant match, ça me perturbe trop,
ouais.
En fait. Et finalement, je préfère qu'on reste sur ce qu'on faisait avant. C'est peut-être pas, je te fais confiance et si tu me dis que c'est peut-être pas le truc optimal, je te crois. Mais en fait, ça me dérange en fait. Et
d'accord,
donc,
ouais.
Je préfère qu'on reste sur ce que j'ai toujours fait. Et en fait, ça doit pas être non plus complètement dysfonctionnel, sinon
oui,
j'en serais pas arrivé
pas
là,
là.
Voilà. Et donc, ça c'est marrant, tu vois. Et donc, en général, ben, tu dis au mec, ben ouais, en fait, t'as raison. C'est-à-dire
oui.
que, oui, ok, peut-être qu'il. Finalement, je me rends compte qu'il fallait mieux faire ça dans tel ordre, ou ça, le truc qu'on faisait 5 secondes, en fait, c'est 8 secondes. Ou, tu vois, le truc que je te disais de faire en premier, maintenant, faut le faire en deuxième, ou tu vois, j'en sais rien. Ben, le mec, il te dit, ben non, en fait, tu vois, je suis habitué comme ça, et
mais
finalement...
Mais tu vois, on rentre dans vraiment un truc, c'est là que la personnalisation, c'est ouf, parce que, voilà, si t'as ta routine, mais que ça te fait... Enfin, presque, j'allais dire, ça te fait plaisir, parce que tu vois, t'es dans un
mais
truc...
Oui, parce que le but, c'est de commencer le match dans les
meilleures
conditions possibles,
en fait.
Exactement.
Ouais.
Et donc, si perturber ta routine d'entraînement, quand bien même c'est mieux de faire cet étirement 8 secondes au lieu de 15 secondes, eh ben, tu vois, si ça te perturbe,
c'est marrant,
reste sur
le jonglage que tu dois avoir entre les données de la science, mais aussi la personne, mais aussi savoir que parfois tu dois aussi pousser la personne au-delà
oui.
de ce qu'elle pense être. Ouais, c'est en fait, au final, c'est que du feeling.
Mais c'est sans fin, et puis c'est pour ça aussi que je te dis, vraiment, je suis pas du tout critique quand je dis que moi, mon métier, il est un peu différent de celui des clubs ou de d'autres collègues, c'est que. En fait, on peut pousser tout ça à l'infini presque,
ouais.
si tu veux. On peut optimiser l'humain, physiquement ou mentalement. Voilà, c'est pas un truc, tu vois, figé.
C'est pas un truc figé ni fini.
Voilà, tu vois. Et puis, ça dépend est-ce que le mec est dans une période où il se sent bien? Est-ce que ça va bien à la maison? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il mange bien?
Ouais,
tu
ouais.
vois, c'est, tu peux.
Et toi, en plus,
tu
dois plus ou moins contrôler tout ça ou jusqu'où ça va? Parce que toi, la nutrition, par exemple, ça peut être un gros truc. Peut-être pas plutôt avec les acteurs ou les trucs comme
ça
que les athlètes.
Non, mais ça dépend. Ça dépend parce que, en fait, tu vas avoir. Par exemple, je travaille avec certains sportifs qui voient des nutritionnistes,
ouais.
auquel cas, ben, je pense que le nutritionniste, a priori, doit être plus compétent que moi, même si moi, j'ai quand même des notions assez solides en nutrition. Inversement, le joueur de 20 ans qui n'a jamais vu un nutritionniste de sa vie et qui bouffe du sucre à longueur de journée ou qui va encore au fast-food ou qui boit encore des sodas, même toi, tu vois, tu dois pouvoir te dire... Ben, en fait, il faudrait peut-être arrêter le coca, tu vois, ou les pizzas le soir avec les potes, c'est pas optimal. Donc, si, ça m'arrive, ça m'arrive de voir des trucs, tu vois, qui peuvent être pertinents pour un joueur. Dans d'autres cas, y a quelqu'un qui s'en occupe et qui est plus compétent que moi. Donc, on essaie plus d'être dans la complémentarité.
D'accord.
Souvent, ce qui m'arrive, c'est que moi, je suis un peu un athlète qui voit un nutritionniste. Moi, je peux avoir mon importance dans le sens où il va voir le nutritionniste une fois tous les 3 mois, j'en sais rien, ou tous les mois, par exemple. Et moi, après, je peux être un petit peu le garant
au quotidien,
de dire, alors,
en
fait, c'est pas trop dur. Est-ce que t'as vraiment arrêté tous les sucres? C'est bon, le coca, t'as arrêté. Enfin, tu vois, c'est moi peut-être un peu qui vais checker plus quotidiennement, tu vois que...
Oui, qui va être le truc le plus important au final, parce que c'est comme, quelque part, c'est encore une fois la méthode... ou la forme de donner des informations.
Oui,
quoi, parce qu'en
exactement.
Fait, tu l'entends donner qu'une seule fois, mais t'es là après.
C'est ça. Et créer un truc positif autour de ça. Tu vois, moi j'ai l'impression que c'est aussi mon
moins
travail.
Moins de contraintes sur un truc et plus.
T'imagines si moi, en fait, je rajoute un peu cette idée de, comme tu dis, de contraintes. Le mec, il fait un métier exigeant, ultra concurrentiel. Où on lui demande de jamais craquer, tu vois, d'être toujours... Si moi, je reviens encore rajouter ce truc... Tu vois, par exemple, autre chose, à mon avis, qui est important pour les sportifs avec qui je travaille, c'est de ne... Dans une séance avec moi, ils ne sont pas évalués.
Oui.
Tu vois, parce que quand tu travailles avec ton club, finalement, tu es systématiquement évalué. Tu es systématiquement en concurrence avec les autres. Donc, en gros, le moindre exercice... Même, tu sais, c'est tout bête, mais dire au kiné, tiens, j'ai une petite douleur, des fois, tu te poses la question en tant que sportif, parce que est-ce que ça va pas te faire perdre ta place, tu vois, alors que moi, je peux offrir cet espace de liberté où déjà, on travaille dans l'intimité, c'est-à-dire que ce qui se passe entre nous, ça reste entre nous, et on travaille... Moi, je travaille pour le joueur, donc personne n'a à savoir ce qu'on fait ensemble. Sauf évidemment quand le club me demande de la transparence ou me demande de faire un bilan, évidemment je suis honnête. Si le mec, y a un problème, bon, je peux pas. Mais aussi, comme je te disais, le fait de à ce moment-là, de pas être trop jugé, évalué, pas être en concurrence avec les autres, tu vois. Et ça, je pense que c'est important, puisque moi, je travaille, enfin, on l'a déjà dit, mais avec des sportifs de sport co. Je pense que d'ailleurs, c'est assez nouveau, mon métier en sport co. Enfin, ça, 15 ans ou 20 ans, quoi, tu vois.
Oui, parce que je pense que tu te dis, on s'occupe de moi dans le club, et donc j'ai pas besoin d'aller chercher une tierce personne, alors qu'en fait,
aujourd'hui,
existe, donc
oui, pas que moi. Si tu veux, ce modèle-là est quand même le modèle du très haut niveau, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo au foot, c'est connu que il a autour de lui un staff Michael Jordan, qui est pour moi une des références absolues de l'excellence en sport. Il avait un préparateur physique personnel, attitré, qui lui faisait des séances individuelles quasiment quotidiennes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce mec a été embauché par Kobe Bryant. Il a été embauché par Kobe Bryant quand Michael Jordan a arrêté. Enfin, quasiment toute la carrière de Kobe Bryant, puisqu'ils se sont croisés. Et d'ailleurs, je crois même que ce mec-là était sur le banc. Il était au troisième ou quatrième rang du banc des Lakers à tous les matchs, tu vois.
En même temps, Michael Jordan, tu peux avoir qu'un seul client.
Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est quand même aujourd'hui le modèle du très haut niveau, du sportif de très haut niveau. Je crois que Neymar au PSG a un staff personnel, enfin.
Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse plus dans être préparateur d'athlète dans un sport co plutôt que d'athlète dans un sport individuel?
La première réponse, c'est que, en fait, moi, j'étais un sportif de sport co. Oui. Donc, en fait, je vis aussi un peu, je poursuis mon rêve de gamin, quoi. Ouais. Tu vois, moi, j'ai fait du basket en 1992 en voyant la Dream Team, justement, de Michael Jordan. Et donc, moi, j'ai fait des sports collectifs, j'ai fait du basket, tu vois. Et donc, c'est tout simplement ça qui m'a amené là. Et je me suis retrouvé, comme je te disais, dans cette espèce de nouveaux paradigmes qui s'est créé du sportif de sport co qui a besoin d'un service individuel, parce que je pense que, je sais pas, en tennis ou en golf ou en boxe, c'est déjà le cas depuis toujours. Oui. L'entraîneur de tennis, il est coach individuel. Donc moi, en fait, un peu par hasard, je me suis retrouvé à travailler sur de l'individuel avec des sportifs de sport co à la sortie de mes études, parce que j'avais un pote qui devenait agent de joueur de foot et qui a commencé à me demander à bosser avec des joueurs à lui pendant les moments où ils jouaient pas ou pendant les moments où ils n'avaient pas de club. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait toute une zone à explorer d'optimisation.
Et qui était encore pas trop en France.
Qui était encore pas trop.
Là, tu sens que c'est encore un peu, même aujourd'hui, jeune en France. Genre, enfin, je sais pas, est-ce que tu te dis, tiens, il y a des gens qui sont connus dans ce club qui n'ont pas encore de, tu vois, de...
Non, mais justement, c'est vrai que c'est marrant parce que je sais pas trop, en fait. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas tous envie trop de communiquer là-dessus. Les anglo-saxons ils sont open parce que aussi bien au foot en première ligue par exemple qu'au basket en NBA, qui sont deux modèles de championnats de très haut niveau, c'est un peu assumé que l'athlète a, un peu comme dans les études, si tu veux, à un moment il y a une partie, c'est ta responsabilité, c'est à toi de la faire tout seul. Un sportif en NBA, il est 4 mois en vacances, en gros, même plus parfois quand il joue pas les playoffs pendant tout l'été. Si tu veux, c'est sa responsabilité de s'entraîner, de continuer à s'entraîner, de se préparer.
Oui, de pas prendre 15 kilos pendant les 4 mois.
Ouais, exactement.
Puis à ce côté aussi, les Anglo-Saxons, ils aiment bien le côté travail, mettre le paquet sur un truc et de dire non, moi j'engage en plus quelqu'un, c'est un peu valorisant. Alors qu'en France, il y a peut-être plus un truc genre. Ah ouais, t'as besoin de... Enfin, comme si c'était...
Oui. Après, je sais pas, c'est peut-être dur à expliquer, mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là, je parlais de la NBA, mais même en première ligue, tu as un minimum. Mais c'est pareil chez les Américains, tu as un standard en dessous duquel on ne vient pas te chercher, en fait. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité de revenir. Parce qu'il faut aussi maintenir. Dans ces structures,
niveau d'excellence.
Voilà, et il faut maintenir un milieu ultra concurrentiel. Ça fait partie du truc. C'est-à-dire qu'à un moment, l'entraîneur ou le mec qui fait mon métier dans un club de très haut niveau, il doit aussi montrer à son groupe que ici c'est l'excellence qui est visée. Et donc, si vous retombez trop bas, le mec qui n'a rien foutu, qui n'a pas couru pendant 3 mois, à un moment, ce serait peut-être un mauvais message à envoyer au groupe que de dire « c'est pas grave, t'inquiète pas, on va reprendre dès le début ». Non, justement, ça, c'est mon métier à moi, que ce mec-là vienne me voir pour me dire « écoute, là, j'ai fait n'importe quoi, je suis à la cave ». Et c'est moi qui vais lui dire « bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va trouver des solutions ». Mais dans le vestiaire, il faut quand même, dans un vestiaire à très haut niveau, les clubs sont aussi un peu obligés de maintenir le mot m'échappe, mais cette ambiance, tu vois, cette ambiance de performance est ultra concurrentielle. Ouais. Sinon, peut-être que ça ne marcherait pas.
Mais c'est le côté petite dose de stress qui, quand même, t'oblige à être motivé aussi pour.
C'est ça. Et puis, eux ils veulent aussi voir émerger les meilleurs, les plus forts, en fait. Donc, il n'y a pas de place pour être faible à ce moment-là. Ouais. Ouais, voilà. Tu vois, il n'y a pas de place pour ça. Mais j'imagine que c'est pareil. Dans les orchestres dans un orchestre philharmonique haut niveau, dans les gens qui font des spectacles de la danse classique de haut vol, tu vois, et ou dans les études, comme on disait, tu vois, t'as fait des études de médecine, j'imagine, pour devenir dentiste, au moins au départ. Bon, je veux dire, il y a un moment, les profs, si toi t'es pas capable de comprendre la masse de travail qu'il y a à fournir pour être là. Bon, en fait, tout le monde veut ta place, donc personne ne va pas. Enfin, personne ne va venir te dire.
Oui, tout ce qui est un concours va forcément aboutir dans les mêmes trucs. Dès que tu dois dire, écoute, il y a 60 personnes qui veulent la place où t'es.
Voilà. En NBA, c'est 400 contrats. En première ligue, en foot, ça doit être, comme les effectifs sont un peu plus gros, ça doit être 800 contrats. Ouais. Et c'est la planète entière qui veut être là. Si à un moment, toi, tu flanches, quelqu'un sera là pour prendre ta place, il n'y a pas de problème, en fait.
Et parfois, y a des sportifs qui sont à la limite du burn-out ou quoi.
Ah, mais tout le temps. Mais il y a plein de sportifs qui... Ouais. De toute façon, j'ai envie de te dire que c'est terrible, mais le très très haut niveau, la plupart des sportifs n'y arrivent pas. Donc, quand bien même ils y arrivent, certains n'y restent pas.
Ouais.
Donc oui, y a des carrières très éphémères, y a des sportifs qui plafonnent, y a des sportifs qui ont des grosses crises de confiance, des gros temps faibles dans une saison, dans une carrière. Tu sais, les blessures... c'est des formes de burn-out, puisque même si je ne maîtrise pas la science que je vais énoncer, mais tout est un peu lié, quoi. C'est-à-dire, quand il y a une blessure, c'est aussi souvent le résultat de facteurs mentaux, environnementaux, tu vois,
le faux mouvement que j'aurais jamais dû faire, ou des trucs comme ça.
Exactement, ouais. Si tu veux, c'est même quotidien. Et comme je te disais, il y a aussi, j'en discutais avec pas mal d'entraîneurs, cette idée aussi de maintenir la joie et la joie, la motivation, être heureux d'être là. À Georgetown, en universitaire, j'en parlais avec le préparateur physique là-bas, donc c'est des structures de haut niveau en NCAA. Ils essayent de trouver des moyens pour un petit peu comme ça, ils ont un terme anglais qui ne va pas me revenir, mais que je pourrais t'envoyer ou par texto quand je reprendrai mes notes. Mais en gros, par exemple, ils font des semaines justement pour stimuler un petit peu la joie à l'entraînement, où chacun porte le maillot de son lycée, les couleurs de son lycée, ouais. Tu vois.
Ou, re-rajouter du fun.
Un truc, voilà, essayer de rajouter un peu du fun pour que, tiens, cette semaine, chacun, voilà. Alors, eux, ils ont trouvé ça, par exemple. Chacun vient avec son maillot de high school. Et donc, le mec se dit, putain, c'est ma semaine high school où je me rappelle un peu mes années lycée, où donc, en général, c'est les années où tu marchais sur l'eau, tu vois, ouais. Puisque justement, t'es arrivé beaucoup plus haut. Donc, mais ça te remet aussi dans des ondes positives,
d'insouciance. Le sport, c'est en fait j'ai l'impression qu'il y a c'est un problème un peu similaire dans un peu tous les trucs, que ce soit un peu dans l'art ou dans les trucs comme ça, dès qu'il y a de la performance ou un truc. C'est en fait le domaine te plaît parce que c'est un truc voilà de ton enfance, t'es admirateur de ce domaine. Tu fais le travail pour y être, et une fois que tu y es, en fait, comme ça devient un travail, il n'y a plus le fun, en fait.
Mais exactement.
Et du coup, il n'y a plus le truc de la motivation qui a fait que tu as pu arriver là. Et donc, c'est vrai que tout le travail, c'est de réinjecter la petite étincelle que tu pouvais avoir quand tu étais plus jeune, en fait.
Exactement. Et c'est d'autant plus vrai, on pourrait même dire la grosse étincelle, quand on parle de ces métiers passion. Parce que tu vois, il y a certaines passions professionnelles qui viennent sur le tard, tu vois, de manière un peu plus réfléchie, parce que c'est des choix de carrière. Mais typiquement, la carrière de sportif, ça va chercher dans un truc d'enfance, quoi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, t'as commencé ça parce que tu trépignais d'aller prendre ton ballon et d'aller galoper avec les potes, tu vois. À 8, 9, 10 ou 12 ans. Et donc, j'imagine, c'est pareil, comme tu dis, dans l'art, tous ces métiers purement passion, en fait, que tu commences, qui ne sont pas des métiers, en fait.
Ouais.
Qui sont des trucs que tu as commencé juste parce que...
Ouais, en te disant, j'aurais peut-être jamais un salaire de ça.
Exactement.
Mais
exactement.
Dès que tu commences à en avoir un, t'es là, c'est... tu fais bon.
Exactement.
Ok, c'est le millième entraînement, ou alors c'est...
c'est ça.
Il faut que je réécrive ça comme hier. Et t'oublies le...
C'est ça. D'ailleurs, je pense que cette génération, par exemple, qui est la génération actuelle, où certains ont pu arriver là par à pas du gain, par exemple, c'est-à-dire le mec qui est devenu un sportif de haut niveau parce que c'est des métiers où on gagne beaucoup d'argent, je pense que celui-là, il peut avoir beaucoup de mal. Parce que justement, le jour où tu gagnes beaucoup d'argent, finalement, quel est ton moteur Et souvent, t'as ce profil-là de joueurs qui, tu remarques, qu'ils ont eu justement un gros contrat, qu'ils sont arrivés un petit peu au sommet, ont du mal à avoir cette étincelle justement dont tu parlais, ce petit truc de plus pour gagner des titres. Ouais. Tu vois, Ronaldo, par exemple, là-dessus, moi, je pense que j'étais plutôt quelqu'un admiratif de Messi parce que j'avais l'impression... Enfin, je trouve que peut-être dans le talent pur, il avait quelque chose de plus que Ronaldo.
Ouais.
Et là, sur la deuxième partie de carrière, je trouve que Ronaldo, il est impressionnant dans cette abnégation, cette soif de victoire de gamin, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a gagné 3 Ligues des Champions, ou 4 Ligues des Champions sur 5. Parce que
là, clairement, il n'a plus rien à prouver. Et surtout, c'est bon, financièrement, il est 7, tout va bien. Donc, s'il continue avec cette ferveur, c'est que clairement, il aime...
C'est qu'il y a un moteur, tu vois, c'est qu'il arrive à maintenir. Alors, il y en a... ça peut être la passion de la victoire, hein. Mais je veux dire, au moins, il arrive à maintenir une passion. Michael Jordan, je reparle de lui, mais puisqu'on parle d'excellence sportive, c'était clairement une passion pour la compétition et un refus de perdre.
Il y a des anecdotes de ouf à base de genre, je joue au ping-pong contre quelqu'un et que perds, je pète.
Il y a pas mal de petites anecdotes. et d'ailleurs, apparemment, c'était pas un mec très très agréable à l'entraînement, quoi. Et même dans la vie, je crois. Mais lui, voilà, clairement.
Lui, il était drogué à la victoire.
Voilà. Donc, il faut. Et t'as des mecs qui ont. Et ce qui paraît normal, il faut être un peu extrême pour ça, mais t'as beaucoup de sportifs qui, des fois, ont du mal à garder cette flamme du dépassement systématique, du y a un nouveau qui arrive, il faut que je sois encore au-dessus, que je monte mon niveau encore plus haut, toujours, tous les matins, tous les jours, parce que ça demande, on a souvent l'impression que la vie de sportif, c'est une vie de rêve, et c'est une très belle vie, je pense que, mais ça demande quand même Un certain nombre de sacrifices, et quand il faut mettre son corps en action, des fois c'est pas voilà, se lever tôt le matin, sprinter, courir, pas s'arrêter, bon des fois voilà, on peut avoir tendance à craquer quoi, à plus avoir envie en fait.
Est-ce que tu viens d'une famille où je sais pas, on révère la compétitivité ou des trucs comme ça?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Est-ce que tu réconcilies le truc de... Parce que justement, tu vois, t'as l'air plutôt en mode chill, machin, mais comment est-ce que tu réconcilies le fait que, ben, en vrai, si on veut avoir un certain, peut-être, je sais pas, standard de spectacle ou un truc comme ça, il y a besoin de cette motivation-là, quoi.
Mais justement, moi, je suis un mec qui suis pas tellement comme ça, et en fait, j'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un qui apporte une aide à ces sportifs. Parce que moi, justement, j'ai été un sportif qui a échoué, comme la plupart des sportifs. Donc, j'ai fait une carrière très honorable de basketteur en National 2.
Ouais.
Mais je veux dire, la vie de 99% des sportifs, c'est qu'à un moment, ils arrivent à leur plafond, tu vois. Et donc, au contraire, en travaillant avec des sportifs en individuel, en dehors du contexte club ou en complément du contexte club, j'ai l'impression justement que je peux réussir à me détacher de ce truc de la compétition à tout prix et au contraire d'être plus dans une logique de faire une belle carrière, avoir un corps en bonne santé, d'accord, être plus fort. Moi, ce qui me motive plus, si tu veux, c'est d'apporter les outils à un sportif pour qu'il soit plus fort, pour qu'il soit plus endurant, pour qu'il soit plus souple.
Qu'il brûle pas sa carrière en deux ans.
Justement, je trouve que j'ai réussi à trouver une position qui peut être beaucoup plus dans la bienveillance et dans l'épanouissement personnel. Tu vois, on a parlé un peu de développement personnel, mais justement, moi, je suis beaucoup plus libre d'aller explorer ce truc-là, ce versant-là, que quand t'es entraîneur dans un vestiaire où là t'es le garant justement de ce domaine ultra compétitif. Donc moi j'ai l'impression d'avoir un pas de côté justement par rapport à ça, d'être complémentaire à ça mais d'avoir un pas de côté.
Ouais. Du coup c'est pas mal parce qu'en fait t'as trouvé ton...
J'ai trouvé ma place,
ta place. Et tu disais tu t'occupais aussi d'acteurs ou de...
Exactement.
Voilà. J'imagine que le game il est plus du tout pareil, on n'est pas dans la performance fine.
Exactement, c'est comme ça que j'ai pu aussi me diversifier. Et par exemple, je pense principalement à un acteur avec qui je travaille qui lui avait plutôt des problèmes de... surpoids. Et je pense que l'enjeu pour lui, c'était réussir à lui faire mettre les pieds dans une salle de sport 5 fois par semaine à des moments où les tournages ou un personnage va l'exiger et que ça reste un bon moment. Et que justement, là encore, finalement, c'est exactement le même métier, c'est exactement les mêmes outils. Et c'est encore une fois trouver le bon moyen de transmettre le message, en fait. Et du coup, je pense que là encore, si j'étais trop dans une logique premier degré de performance ou de no pain, no gain, ça aurait pas marché. Ouais. Et tu vois, justement, c'est pas facile pour tout le monde, en fait, de comprendre. Souvent, par exemple, à lui, et d'ailleurs, tu vois, c'est une expression qui, moi, me parle, mais avec moi... mais même le sportif, si tu veux, avec moi, le sportif ou l'acteur ou quiconque, on n'a pas à se conformer à se conformer à l'exercice. C'est l'exercice qui est notre outil. Si tu veux, l'exercice n'est pas notre maître, c'est notre esclave, entre guillemets.
Ouais.
C'est-à-dire, la compétition, elle te demande de te conformer à une exigence motrice ou physique. Il faut rentrer dans un standard, il faut produire une performance physique ou motrice performer ou pour gagner, en fait. Avec moi, souvent, j'essaie un peu de renverser ce truc-là. Non, on va se mettre sous une barre de muscu pour, justement, on va utiliser cet outil à notre service, avec la charge qui est optimale pour nous, ou pareil avec un acteur, on va pas dans une salle de muscu pour se conformer à l'image tu vois, du mec musclé, tu vois, qui est beau. Non, la salle de muscu, c'est notre outil, l'exercice physique, c'est notre outil pour arriver à nos objectifs,
en fait. Un objectif que tu étais d'accord d'atteindre. Donc, d'accord. En gros, ouais, toi, tu changes l'angle de vue.
Non, et que tu seras heureux d'atteindre. Et que tu seras heureux d'atteindre. Parce qu'un sportif, il est heureux quand... quand il est performant, parce que il y a quelque chose de magique aussi dans le, tu vois, quand je te dis que je suis pas un tout performance, mais moi aussi ça me fait vibrer, tu vois, de voir des sportifs se dépasser, gagner, tu vois, il y a un truc magique aussi là-dedans, et dans le cadre des acteurs, eh ben tu veux arriver à un résultat pour incarner un rôle de manière de la meilleure manière possible, ouais voilà, et justement moi je suis celui qui va t'amener les meilleurs outils, et ces outils là sont à notre service et pas l'inverse, et souvent il y a ce truc là de
très vite on se voit esclave du truc, on a plus envie d'y aller, alors que si on commence à avoir le point de vue différent,
souvent d'ailleurs les sportifs me demandent: et les autres sur cet exercice ils donnent quoi en fait? Et moi j'essaye de dire non, on s'en fout. La question, c'est nous, où on en est.
Putain, c'est marrant, en fait, tu vois, ils veulent amener de la compétitivité partout. Quoi.
C'est ça. Mais même... bon, quand deux sportifs se connaissent, ils vont avoir ce côté de dire « Eh, un tel, tiens, là-dessus, il donne quoi ?» Mais même quand c'est pas le cas, ils veulent savoir « Mais alors, c'est quoi la norme, en fait ?» Tu vois. Et en général, tous les pratiquants ont cette question de dire « Mais alors, est-ce que... alors c'est bien ou c'est pas bien? Je suis normal ou pas ?» Mais non, on s'en fiche. Si aujourd'hui, la charge dont tu as besoin sur tel exercice, c'est 1 kilo, on fait 1 kilo. Voilà. Si c'est 100 kilos, c'est 100 kilos. Mais il n'y a pas de morale là-dedans.
On en revient au truc de l'esprit vide, en fait. Il faut arrêter de penser aux autres, il faut arrêter de penser à un truc. Sois mieux qu'hier, toi-même.
Exactement. Sois une meilleure version de toi-même. Ouais, tu vois. Et moi, je t'accompagne, je te donne les outils à être une meilleure version de toi-même dans des objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, dans mon cas, c'est des objectifs physiques.
Est-ce que c'est toi qui... Non, j'imagine que c'est les gens qui viennent avec plus ou moins des objectifs à atteindre.
Non, il y a les deux. Par exemple, moi, aujourd'hui, sur les joueurs de foot, par exemple, qui sont l'essentiel de ma clientèle, il y a quand même des trucs classiques, tu vois. Genre, je te parlais de déséquilibre, mais les joueurs de foot, ils ont souvent des déséquilibres autour du bassin. Mm-hmm. Où ils ont, par exemple, je trouve souvent... un pied pas assez fort.
Ils le savent, ils arrivent.
Ils ne le savent pas forcément, justement. Ça, c'est typiquement des trucs que moi, en général.
Écoute, fais-moi un bilan. Enfin, en gros, fais-moi un bilan et dis-moi ce que je peux améliorer. Ah,
mais en général, sur un sportif, c'est toujours la même chose. Être plus rapide, être plus explosif, être plus explosif, être plus endurant, être plus efficace dans ses gestes sportifs. Et après, c'est à moi. De en fonction du poste, en fonction du profil, de trouver les angles les plus pertinents en fonction de ce qu'ils font déjà en club, puisque je le répète encore, moi j'arrive en complément du club. Moi, si tu veux, j'optimise l'entraînement d'un sportif en lui rajoutant une heure hebdomadaire, par exemple, ou deux heures hebdomadaires sur un entraînement ou sur une pratique qui fait déjà 20 heures hebdomadaires, tu vois, avec son club. Et c'est quand même ça la priorité.
Et le fait que, de l'autre côté, ce soit des objectifs cosmétiques, un peu, quelque part, quand c'est pas des sportifs.
Esthétique.
Ouais, esthétique. Est-ce que c'est plus facile pour toi? Ou est-ce que c'est juste comme il y a plus de mental, peut-être, peut-être.
Non, alors, ça dépend, mais oui et non, parce que, en fait, là, je vais être très influencé par une expérience en particulier. C'est que souvent, c'est quand même des problèmes liés au surpoids. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et du coup, y a aussi l'idée que quand même si la finalité, c'est d'être plus conforme esthétiquement à l'écran, il y a aussi l'idée de meilleure santé, quand même.
Oui, bien sûr. Donc,
le corps plus beau, il est souvent en meilleure santé. Oui. Il est souvent plus sain, tu vois. C'est-à-dire, sans tomber dans l'excès de...
T'es pas en mode, tu vas te déshydrater pour que tous tes muscles ressortent et tout ça. On est déjà dans un truc où, de toute façon, ce sera meilleur.
Même si, effectivement, là, tu faisais référence à des petites recettes de culturistes.
Wolverine et tout.
Et les méthodes de culturisme, c'est des choses... quand même qui sont pas toujours. Y a, tu sais, je me suis rendu compte, parce que évidemment, il y a beaucoup de choses qui passent par la musculation ou par le travail de force ou de l'haltérophilie ou les méthodes du culturisme, mmh. même s'il n'y a pas que ça dans ce que je fais. Et souvent, c'est des. Moi, le premier, j'avais une assez mauvaise image de ce monde-là et de ces méthodes-là, alors que. 90% des méthodes du culturisme ou de l'haltérophilie ou de la force athlétique, puisque là c'est les trois grands, sont hyper saines et hyper bonnes pour la santé. Alors après, le truc c'est qu'il y a souvent des extrêmes, et notamment quand on va dans les charges très lourdes, on a souvent tendance à négliger la posture, donc ça, moi, c'est une chose que j'évite à tout prix. Et dans le culturisme, il y a souvent effectivement des mecs qui sont dans un excès presque pathologique. Et donc là, il y a plus des problèmes, je pense, liés à la prise de produits. C'est plus genre de truc qui est. Forcément. Mais je veux dire, le.
T'en arrives pas là.
Non, pas du tout.
Il y a pas la boîte de prod qui te dit vas-y, s'il faut utiliser ça, on t'en donne 200.
Non. Ah ouais. Non, ça m'est jamais arrivé. Et franchement, je suis convaincu, tu vois, même avec tout ce qu'on vient de dire, on a parlé de mental, qu'il y a des zones, des leviers d'optimisation de la performance. Il y en a énormément avant d'arriver à la prise de produit. Je pense qu'il y a plein de sportifs. Il y a selon moi une règle presque universelle qui est que toute fonction qui est assistée s'atrophie. C'est un peu l'expression la fonction crée l'organe. Et donc je pense la même chose un peu des produits, quoi. C'est-à-dire à un moment, si tu
prends un palliatif pour un truc, tu le créeras jamais toi-même.
Exactement. Ouais. Tu vois, à un moment. Je pense que même au niveau hormonal, puisque souvent le dopage, tu vois, pour sécréter plus de testostérone, tu vois, mais je veux dire, le corps, il sécrète déjà des hormones anabolisantes, de la testostérone. Donc en gros, moi je suis un convaincu que tout ça, on peut y arriver, bien sûr,
naturellement.
Bien sûr,
même
mieux en fait, naturellement, tu vois.
Ouais.
C'est toujours une question de court terme, en fait, quoi. C'est sûr que si tu veux sécréter plus de testostérone la semaine prochaine,
une injection,
ça va être plus rapide. Mais pour faire une carrière sur 10 ans, tu vois, ou 15 ans, je pense qu'il vaut mieux dès le départ prendre les bonnes habitudes, et tu vas être, au contraire, à 30, 32, 33 ans, tu vas être un sportif qui va continuer à exceller parce que, justement... t'auras fait la chose de la manière la plus saine et la plus naturelle possible et la plus logique.
Et la plus personnelle aussi.
Exactement.
S'il y avait un truc, j'allais dire pour terminer, parce que la demande générale pour un coach sportif, ça va être quoi? Ça va être genre, je veux me mettre dans une meilleure condition physique. Est-ce qu'il y a, genre, je sais pas, deux, trois petits conseils que tu donnerais ou même si le conseil c'est aller voir un coach sportif d'ailleurs, tu vois, ou
non, j'ai pas donné ça comme conseil, mais alors souvent mes conseils c'est que justement ce que je te disais tout à l'heure, essayer de renverser cette idée que il faut se conformer à l'activité physique et donc accepter que en fait reprendre le sport, ça peut être des toutes petites choses, ça peut être reprendre la marche, arrêter de prendre les escalators et reprendre prendre les escaliers, c'est-à-dire très vite se recréer un truc très positif par des toutes petites choses, c'est-à-dire on a souvent l'impression que pour reprendre le sport il faut se faire mal, et ben non, moi je suis pas trop d'accord avec ça, je pense que justement on peut très vite, si on marche si j'exagère, si on marche une demi-heure de plus qu'hier, ben ça y est, on a repris le sport, quoi. Enfin, si on prend les escaliers de sa station de métro alors que jusqu'à maintenant on prenait les escalators, ben ça y est, on a repris le sport. Donc tu vois, remettre le pied à l'étrier par des petites choses, et donc tu vois, savoir accepter que chacun repart de là où il est, et que ça c'est le plus important. Et donc après, je dirais que tout ça, c'est lié à tout un ensemble de vouloir se sentir mieux. Donc ça passe effectivement par peut-être comment dire, se refaire plaisir, tu vois, par faire ce qu'on aime, quoi. C'est-à-dire, si à un moment tu prends plus de plaisir à aller jouer au foot avec les potes que à te mettre sous une barre de muscu,
ouais,
et ben
fais pas voilà. Ça et fais, ouais, choisis,
exactement. Et après, quand on veut rentrer un petit peu dans le dur, ben c'est un peu des choses qu'on a dit dans l'entretien, mais moi je pense que c'est important de donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à un moment où quand on commence à s'intéresser à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ben tout de suite c'est plus facile. Donc notamment, par exemple, on parlait de musculation, je pense que quand on comprend un petit peu comment ça marche, donc là souvent on a besoin d'un coach sportif effectivement, mais c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus facile de se tenir à un programme quand on comprend la logique ou quand il y a quelqu'un qui nous explique la logique.
Et mais après, plutôt que de s'y lancer tout seul sans vraiment, et au final abandonner parce que justement,
ouais, voilà,
on se dit c'est une contrainte, je sais pas ce que je fais.
C'est ça.
Donc, je vois pas les résultats.
Donc quand même, voilà, être conseillé pour quelle posture adopter dans les exercices, quelle charge et quelle logique de progression, ça c'est important. Et un petit peu pour boucler la boucle, ne pas séparer le mental le corps du mental, quoi. C'est-à-dire à un moment, on peut faire des fois exactement la même chose. Mais quand on arrive mentalement à l'incarner, à le vivre, ouais, tu vois, ben je pense que ça va être plus efficace, plus plaisant. Voilà, le petit footing. Alors ouais, si, voilà, un truc, c'est attention aux idées reçues, quoi. C'est-à-dire, on pense souvent que, tiens, je me remets au sport, je vais aller faire un footing.
Ouais.
Ben, des fois, c'est mauvaise idée. C'est-à-dire, le footing, c'est plus traumatisant que ce qu'on pense, ouais, tu vois, pour le corps. Donc souvent, il vaut mieux reprendre par des exercices soft pour le corps. Donc je parlais de marcher, je parlais de prendre les escaliers, les gainages.
Ouais,
c'est un
yoga,
truc bien pour reprendre. Voilà.
Pilates.
La musculation très légère, parce que ben, souvent, c'est une fausse bonne idée. Voilà, reprendre le footing sur du béton avec des mauvaises pompes et en étant mal placé,
ouais,
c'est blessure quasi assurée. Donc,
d'accord.
Donc voilà, ça demande quand même d'être conseillé, mais pour la plupart d'entre nous, il faut aussi, c'est lié à ce qu'on mange, on parlait du mental, mais à, ouais, ses pensées, donc essayer aussi d'être épanoui, ça repart par les pensées positives, par une alimentation saine, manger du sucre et boire des sodas toute la journée, forcément.
Ouais, faut commencer un peu quelque part.
Voilà, exactement.
Donc en gros, voilà, une petite demi-heure de marche de plus par jour et on arrête les sodas, et puis on commence comme ça, et puis petite...
Exactement,
ouais,
exactement. Et on commence à penser positivement et à prendre du plaisir à se créer une meilleure version de soi-même chaque jour.
Ouais.
Voilà.
On finit toujours par avoir les conclusions des photos d'Instagram inspirationnelles, alors qu'on leur crache dessus à ces photos, mais en fait, tu te rends compte que même quand tu réfléchis très longtemps, tu te dis, putain, mais en fait, ils ont raison.
Mais oui, et on parlait qu'on avait tout appris après les études, mais t'as aussi des trucs, je sais pas pour toi, mais des trucs que j'ai lu 500 fois dans ma vie, ou que j'ai vu 500 fois dans ma vie, mais je sais pas pourquoi, c'est à la 501e fois,
ouais, que
ce truc-là a pris du sens.
Ouais.
Et donc, c'est vrai, des paroles des parents, des messages ridicules sur Instagram, ou des 10 premières, ou du truc hyper bateau qui est surligné 5 fois dans le premier cours de la première leçon qui paraît le truc le plus béaba, mais des fois, tu sais pas pourquoi, mais ce truc-là, en fait, t'es passé à côté du vrai sens du truc. Et en fait, un jour, t'es impacté par...
Tu as une autre vision du truc.
Exactement.
Tu fais, putain, mais
et tu te dis, mais ce truc-là, je l'ai vu, je l'ai lu, on me l'a dit 500 fois, mais je l'avais pas incarné, en fait. Je l'avais pas vraiment
vécu. Pire, je pouvais avoir du dédain pour ce qui était écrit.
Exactement.
Et en fait, voilà.
Exactement. Donc... de l'humilité, même pour Instagram,
ouais,
parce que
clair.
Peut-être que, tu vois, on va apprendre des choses sur Instagram, et puis voilà, non, du plaisir, et se faire du bien, mais ouais, ça y est,
on arrête
parce que ça y est, je suis devenu un influenceur sur Instagram, donc merci beaucoup pour cette invitation.
Merci à toi, franchement c'est très cool.
Yes, super.
Ouais. Et franchement c'est très très cool.
Et ben merci. Thank you.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.